Nous allons commencer ces deux journées de rencontres autour de l'exposition, ces deux journées, ce qu'exposer veut dire. Je voudrais vous remercier de votre présence nombreuse. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à sous la direction de Gennaro Toscano et de Philippe Dagen à la conception de cette exposition et tous ceux qui vont de cette exposition, pardonnez-moi, de cette rencontre. Et je voudrais remercier tous ceux qui vont y participer activement et s'exprimer au sein de cet auditorium devant vous. Vous voyez que nous avons essayé de mettre ces deux journées d'études sous le signe de la diversité, diversité des intervenants et diversité des types d'expositions que nous allons étudier, exposition Beaux-Arts, exposition art classique, art contemporain, exposition d'archéologie, exposition tirant plus avec la Cité nationale de l'immigration vers l'histoire et vers l'ethnologie, et avec comme objectif, je ne sais pas s'il y a, pour parler un peu comme je le faisais pendant mes études de philosophie, une eidos, un concept, une essence de l'exposition, mais si cette essence existe, avec ses enjeux et ses exigences, c'est un peu ça que nous allons peut-être essayer de... C'est un peu là-dessus que nous allons essayer de travailler à travers, finalement, les différents types d'expositions existantes et produites. L'exposition, c'est aujourd'hui, dans la vie des institutions patrimoniales, et particulièrement dans la vie des institutions muséales, un enjeu, un moment, une activité particulièrement importante, à côté de la mise en valeur des collections permanentes. Et c'est là-dessus que nous avons choisi, avec Philippe Dagen, INP, IXA, que dirige Philippe Dagen, et dans le cadre du LabExCap, qui nous a permis de beaucoup nous rapprocher et de beaucoup travailler ensemble, nous avons choisi, en quelque sorte, de mettre l'accent sur cette activité sans cesse croissante et qui, des institutions muséales, activité qui, en quelque sorte, leur demande sollicite de plus en plus leurs moyens humains et leurs moyens financiers. Vous savez que l'exposition croise différents enjeux des musées. C'est une activité de diffusion, c'est une activité de communication et de valorisation, et j'aurais dû commencer par là, mais si je ne l'ai pas fait, c'est peut-être qu'il y a justement un enjeu et un problème, une activité intellectuelle, scientifique, esthétique et artistique. Et le sujet, c'est bien ça. Jusqu'où l'exposition reste-t-elle ce qu'elle devrait d'abord et toujours être, un manifeste scientifique, intellectuel, esthétique, artistique et culturel? Et quand tire-t-elle, je dirais, trop vers l'activité de communication? Et ce type de réflexion qu'on va essayer de développer à travers différents exemples et en sollicitant l'expérience de différents acteurs, conservateurs, commissaires, scénographes, universitaires, ce type d'interrogation, donc on va la déployer à travers des cas concrets. Et je voudrais conclure en disant que ce qui, à titre personnel, enfin côté INP, nous en a donné l'idée, bien sûr, c'est ce compagnonnage qu'on développe de plus en plus grâce à Philippe Dagen au sein du LabExCap, entre universitaires et conservateurs, entre le monde de l'université, le monde de la recherche et le monde des musées. Et puis, moi, je voudrais dire, c'est beaucoup la lecture que je fais de façon régulière des articles de Philippe Dagen sur les expositions. Moi, je lis ces articles depuis longtemps comme une méditation sur les enjeux de l'exposition, une méditation répétée d'exposition en exposition. Et avec toujours, cher Philippe Dagen, chez vous, cette recherche, en quoi telle ou telle exposition est autre chose et mieux qu'une opération de communication et que l'assemblage d'un certain nombre d'objets et d'œuvres, l'assemblage pourrait être présenté au public. Et je lis de plus en plus vos critiques comme une sorte de mise en garde vers peut-être ce qui est une forme de dérive de l'exposition, vers le produit d'appel et le produit de communication. Et voilà, je crois que ces deux journées, elles vont peut-être avoir, j'en serais heureux personnellement, comme but, comme enjeu, comme ambition de recentrer l'exposition à travers des exemples concrets de choses que nous considérons comme réussies, de recentrer l'exposition sur ses enjeux intellectuels, scientifiques et artistiques. Voilà, j'espère que vous trouverez intérêt à cette première, car nous souhaitons que ces rencontres soient des moments réguliers de réflexion autour des expositions en train de se faire année après année. J'espère que vous y trouverez intérêt, j'espère que ça deviendra un rendez-vous régulier, j'espère que ça rendra service à tous ceux qui veulent, chez nous et ailleurs, à Paris, dans toute la France et au-delà, organiser des expositions réussies. Merci beaucoup.
Bien. Vous m'avez placé dans une situation un petit peu délicate en mentionnant différents types de rapports que je peux avoir avec les expositions. La première chose que je tiens à dire, c'est que l'idée première de ces rencontres, c'est vous et Gennaro Toscano qui l'avez eue, qu'il avait portée, qu'il avait su la rendre visiblement efficace et intéressante. Et pour toutes ces raisons et toutes les raisons institutionnelles que vous avez mentionnées, mais sur lesquelles on ne va pas s'attarder, il est vrai que ce soit l'Université Paris 1, que ce soit le LabExCap, travailler avec l'INP est évidemment pour nous à la fois une chose nouvelle, une chose extrêmement enrichissante, et j'espère, je suis assez convaincu désormais, le signe d'une évolution dans les relations entre le monde des musées, le monde et le monde de l'université, dont je crois que nous avons également besoin les uns et les autres. Et de ce point de vue-là, cette première, comme vous l'avez dit, je ne peux que la saluer avec beaucoup de reconnaissance par rapport à toute la force de proposition que vous avez représentée. Alors ensuite, sur ce que vous avez dit, c'est assez curieux, parce qu'évidemment, l'auditoire ne va pas croire ce que je vais dire. Nous nous étions pas du tout, Eric Gross et moi-même, entretenus avant ce matin de ce que seraient nos discours introductifs. Et donc, j'ai pris mon cahier et j'ai noté, en essayant d'aller, sans réfléchir, il y a quelques jours, des idées ou des mots qui me venaient à propos de l'exposition. Évidemment, comme vous l'avez dit, l'exposition devenue un facteur central de l'activité culturelle. En ajoutant, devenue récemment un facteur central de l'activité culturelle d'une part, mais s'inscrivant dans une longue histoire désormais des expositions que beaucoup, ici ailleurs, ont entrepris d'écrire. À tel point désormais qu'il y a des expositions dont le sujet est la commémoration ou l'analyse d'expositions antérieures. Il y a eu ainsi à Cologne, au Wallraf Richard l'an dernier, une exposition sur 1912 et l'exposition du Sonderbund. Et je pense que c'est un cas de figure qui n'est pas rare. Mais enfin, ce que j'avais noté, c'est ce que je voulais dire, j'ai noté l'exposition comme phénomène économique. L'exposition comme élément d'information par rapport au goût, avec un S, bien sûr, les goûts des conservateurs, les goûts des commissaires, les goûts des publics. Je ne pense pas qu'on puisse employer le mot singulier. Par une attention particulière, les expositions par rapport à la création artistique, au moment où elle se fait, de deux manières. En quoi une exposition, y compris historique, est-elle de nature à produire des effets sur la création contemporaine parce que les artistes vont voir les expositions, quelles que soient les nationalités des artistes, quelles que soient les villes et quelles que soient les expositions. Et puis en sens contraire, dans quelle mesure un moment d'art contemporain peut-il déterminer l'existence d'expositions, et non, et je ne veux pas dire d'expositions d'art contemporain, mais pas nécessairement. On pourrait, mais peut-être qu'on en parlera cet après-midi, demander à Michel Hiller dans quelle mesure l'exposition Caravage tombe certes bien par rapport à l'historiographie du Caravage, mais dans quelle mesure elle tombe bien aussi par rapport à une certaine situation de l'art. En général, on avait nous-mêmes ici, à propos du Narcisse, dans cette même salle, convoqué pour parler de Caravage un peintre français et un vidéaste irakien qui avaient tous les deux repris ce tableau au moment même où vous prépariez votre propre exposition. Donc, ça va dans les deux sens. Les expositions peuvent influencer l'art contemporain, mais probablement l'art contemporain peut-il influencer la programmation des expositions ? J'avais pensé aux facteurs politiques et sociaux, la politique culturelle, bien sûr. C'est peut-être un tout petit peu plus délicat, mais on va aller vers le plus délicat. La politique intérieure, c'est-à-dire les questions de régionalisation, les questions de pouvoir locaux, la manière dont certaines instances, conseils généraux, barons régionaux, quelle que soit la majorité ou le parti dont ils relèvent, prenant possession d'un certain nombre de sujets ou supposés sujets d'histoire de l'art, dans des fins qui peuvent être des fins peut-être davantage promotionnelles que véritablement intellectuelles. On en voit beaucoup d'exemples, et je pense que cette année, on en verra beaucoup d'exemples, une fois de plus, autour de l'exploitation de l'impressionnisme. J'avais pensé aussi, et naturellement l'actualité m'y contraint, à l'exposition comme enjeu de politique extérieure. Nous savons tous qu'une exposition qui se tient à l'heure actuelle au musée du Louvre pose des questions d'ordre diplomatique dans la relation entre deux pays, l'Allemagne et la France, qui ne sont pas des relations neutres. Il était évidemment beaucoup trop tôt pour que nous en parlions du sujet cette année, d'autant que la chose est encore en cours. Peut-être le ferons-nous l'année prochaine. Cela me paraît difficilement évitable, pour tout dire. Mais on voit bien que là, l'exposition devient véritablement un événement qui dépasse de beaucoup dans les interprétations, les malentendus, etc., qu'il peut susciter le simple fait d'accrocher des œuvres, si admirables soient-elles, au musée du Louvre. Et peut-être d'ailleurs, le débat est-il encore plus vif en raison même d'un caractère plus prestigieux. J'avais pensé à la politique, donc aux questions institutionnelles et administratives, et c'est là que nous nous rejoignons en aveugle. C'est vrai que la question scientifique ne m'était revenu qu'au dernier moment. Mais c'est quand même un comble que vous, moi, historien de l'art, nous songions à l'exposition comme facteur de savoir et de transmission, et de construction et de transmission d'un savoir un peu plus tard, alors que c'est évidemment ce qui devrait nous venir à l'esprit au premier chef. Et comme vous, j'avais conclu que nous étions bien victimes, en un sens, victimes et témoins d'une évolution. Alors, vous avez dit quelquefois j'essayais d'alerter contre cette évolution. D'abord, quand on est un petit peu dans la presse, on sait les limites du pouvoir de la presse, que l'on exagère quelquefois, à mon sens, un peu à la légère. Et c'est plutôt une fonction d'analyse et de témoignage. Et pour finir, sans vouloir donner dans l'ego histoire, je vais vous dire quel était mon emploi du temps de la journée d'hier. Hier matin, j'étais au Monde. C'était pour écrire sur une exposition, qui n'est pas une exposition française, donc ça mettra tout le monde à l'aise. Exposition autour de Marcel Duchamp à Bruxelles. Bon. Ça, c'est banal. Le soir, je suis allé à l'exposition de l'École des Beaux-Arts. C'est banal. Entre-temps, il s'est passé deux choses, dont l'une est plutôt beaucoup plus rare dans mon emploi du temps. J'ai passé mon après-midi dans une centrale pénitentiaire. Qui s'appelle Réau, qui est une de ces prisons que l'on appelle les prisons Bouygues, je crois, les prisons de dernière génération. Bon, alors déjà, parce qu'il y a à l'intérieur de cette prison un groupe de détenus qui est à la sollicitation et autour de l'organisation d'un conservateur, qui est Vincent Gilles, qui est le conservateur du musée Victor Hugo, qui ont été invités à concevoir un projet d'exposition en s'efforçant d'obtenir des prêts d'un certain nombre de musées, le musée de Chartres, le musée du Quai Branly et d'autres. Et donc, il s'agissait d'une après-midi de travail pour discuter à la fois des derniers choix des œuvres, de la scénographie et du travail éditorial qui allait accompagner l'exposition, puisque la RMN a décidé de produire un petit journal tout à fait comparable, le modèle étant tout simplement le petit journal de l'exposition au Père. Moi, je n'avais pas grand-chose à dire, j'avais juste à écouter, et il y avait donc Vincent Gilles, deux autres personnes de la RMN, et 6, puis 7 détenus. Qui, depuis 6 mois, travaille sur ce sujet, sur ce projet d'exposition. Bien. C'était extrêmement... À certains égards, c'était extrêmement impressionnant de les entendre parler. Parce que, non seulement, ils s'étaient véritablement approprié le sujet, ce sera une exposition sur le thème du voyage. Bon, une exposition sur le thème du voyage dans une centrale pénitentiaire, ce n'est pas tout à fait quelque chose de neutre. Mais il parlait de l'exposition, des enjeux symboliques pour eux, de la question du public, ce qui serait leur famille et les autres détenus, de la question de la scénographie, comment montrer, et avec des notions qui étaient... certains avaient déjà visité des expositions, d'autres pas, avec des idées très, j'allais dire, très arrêtées sur éviter la confusion des types d'objets dans une exposition, éviter d'être trop contraignant, mais être quand même à un certain niveau d'information scientifique. Et très clairement, pour eux, ce n'était pas de l'économie, ce n'était pas de la politique. Ce n'était pas de la communication, mais c'était un enjeu personnel. L'idée, évidemment, de choisir la question du voyage, elle était, vous l'avez tous compris, directement ancrée par rapport à leur situation. C'était des détenus qui, pour la plupart, sont condamnés à de longues peines. Donc, l'exposition, elle est devenue aujourd'hui un facteur si important, si central, que à toutes les définitions possibles que nous avons envisagées tous les deux, j'en ajouterai une dernière qui est évidemment la plus vaste et la plus vague. Je crois que l'exposition est devenue un mode d'expression. Et un mode d'expression, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut s'en emparer. Beaucoup de gens ont envie de s'en emparer. Sans doute êtes-vous nombreux dans cette salle à l'avoir fait ou à vouloir le faire. Et c'est peut-être aussi l'un des axes des débats que nous allons avoir aujourd'hui et demain. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Philippe Dagen. Avant que nous commencions les débats, je voudrais effectivement seulement, et tout à fait dans le prolongement de votre conclusion, dire qu'en effet, ces rencontres sont aussi un moment important de formation. Formation initiale, il y a beaucoup d'élèves conservateurs de la promotion qui sont, enfin des promotions en cours qui sont présents parmi nous, et de formation permanente. Et je voudrais en remercier évidemment particulièrement celle qui s'occupe avec tant d'énergie de la formation permanente à l'INP, au département des conservateurs, Anouk Bassier. Et puis évidemment, je remercie aussi Pascal Chandel et Émilie Maume. Voilà, merci beaucoup et on va maintenant commencer.